Bonjour, bienvenue dans Babylone, à la croisée des savoirs, des langues et des cultures. Bel avenir pour la Provôté, point d'interrogation. C'est la question un brin provocatrice, bien sûr, que je soumettrai dans un instant à mes quatre invités. Une table ronde pour éclairer le nouveau visage de la Provôté au sud comme au nord, avec un détour particulier par notre pays où la pauvreté touche près d'une personne sur dix. Alors la pauvreté est-elle en train de gagner du terrain? Économistes, sociologues partagent-ils une même définition de la pauvreté? Autrement dit, est-elle suffisamment identifiée, documentée? Et puis comment évaluer les politiques de lutte contre la précarité? Ce sont là quelques-uns des thèmes dont nous débattons dans un instant avec mes invités, juste après ceci.
Dans un monde avec tant de richesses, avec ces villes modernes pleines de ressources, comment peut-il y avoir une telle pauvreté?
Est-ce que c'est une angoisse véritable ou un sentiment de pauvreté?
Il y a beaucoup de choses, mais là, tout paraît inutilisable.
Seulement moi, je ne demande pas la charité. La fête.
Salaud de pauvre.
Quelle pauvreté? La grande pauvreté, celle des familles monoparentales, celle des travailleurs pauvres.
Réduire la pauvreté de moitié durant la décennie 2010-2020. Telle est l'ambition de Caritas qui a présenté son nouveau plan d'action à Berne.
La pauvreté touche une personne sur dix en Suisse. Caritas lance un cri d'alarme. Les politiques empoignent aussi le sujet dans le canton de Vaud. Par exemple, on examine un système de prestations complémentaires.
Toute une série de politiques qui sont appliquées dans les pays du Sud, endettés, sont dictées à partir de Washington. My interpretation is because
Wall Street... Pour débattre du nouveau visage de la pauvreté, quatre invités dans Babylone, quatre invités que je salue en les remerciant bien sûr de participer à cette table ronde. Jean-Pierre Tabin, professeur à l'école d'études sociales et pédagogiques à l'université de Lausanne. Éric Créta, qui est sociologue à l'université de Neuchâtel, qui a conduit également auparavant de nombreuses études sur la pauvreté pour le compte de l'Office fédéral de la statistique. Jean Batou, historien de l'économie, auteur notamment de temps d'assistance, le gouvernement des pauvres en Suisse romande depuis le 19e, c'est paru chez Antipode. Et puis enfin, Xavier Verza, volontaire permanent du mouvement ATD Carmont de Suisse et qui a également vécu, partagé la réalité de familles pauvres ailleurs qu'en Suisse. Volontaire permanent, Xavier Verza.
Mais je fais partie d'un groupe de 380 personnes d'une vingtaine de nationalités différentes engagées dans la durée auprès des personnes et familles les plus déconsidérées.
Alors, difficile bien sûr d'ouvrir un débat sur la pauvreté sans évoquer la tragique actualité d'Haïti, hein, première république noire indépendante, un des pays parmi les plus pauvres aujourd'hui, avec 80%, près de 80% des gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Alors, le séisme qui a frappé Haïti, est-ce d'abord un séisme de la pauvreté? J'aimerais un premier commentaire de votre part. Qui commence? Qui se lance?
Oui, Jean-Mathieu. Je peux me lancer. Bon, tout d'abord, vous m'avez attribué un livre qui est celui de Jean-Pierre Tabin. C'est pas grave, mais juste
désolé.
Pour...
C'est une faute de frappe.
Voilà. La question d'Haïti, c'est une question qui renvoie à l'histoire. Ça, c'est tout à fait évident. D'ailleurs, la presse le dit. On se rend compte que ce séisme, c'est la rencontre entre la construction d'une pauvreté qui est un long processus et une catastrophe naturelle. Donc Haïti, c'est à la fois le pays qui a connu une traite négrière forcenée, l'esclavage, la monoculture, le colonialisme, la dette... Hein, la plus grosse dette et la plus ancienne.
Dont on demande maintenant l'annulation.
Voilà, enfin, dont on demande l'annulation. Tout s'accumuler, plus des formes de néocolonialisme avec les États-Unis tout proches. Évidemment, la pauvreté à Haïti, c'est un phénomène construit historiquement. Ça, c'est la première remarque.
Mmh. Alors après le séisme, bien sûr maintenant la question c'est comment reconstruire un pays pauvre, comment repenser ce développement d'Haïti. Ça risque d'être un peu compliqué puisqu'on entend déjà des voix, par exemple, qui demandent la mise sous tutelle d'Haïti. Donc Jean Batou, vous parliez du colonialisme, terminologie coloniale hein, ou néocolonialiste hein, pour cette république haïtienne.
Ben, je dirais que ça va nous poser le même problème au cours de toute cette émission, c'est-à-dire comment aborder la question du sous-développement, comment aborder le problème de la pauvreté sans poser le problème de l'organisation du monde, de la société. C'est-à-dire, si on ne s'occupe que de la pauvreté ou du sous-développement comme une maladie et qu'on ne parle pas du reste de la société, je crois qu'on est à côté de la plaque.
Xavier Verza, lorsque je vous ai contacté pour ce débat, vous m'avez dit, c'est comme si on n'arrête pas de redécouvrir sans arrêt que la pauvreté existe. Hein. Alors, à l'occasion d'une catastrophe lorsqu'il s'agit de pays pauvres, hein, c'est le cas maintenant avec Haïti, et puis ça vaut aussi pour les pays riches.
Oui, ça vaut dans tous nos pays. L'expression « nouveau pauvre », on la trouve déjà par exemple en France en 1907. Uh-huh. Et en Suisse, où on parle publiquement au niveau de l'ensemble des cantons de questions de pauvreté depuis, je crois, 1555, on se repose régulièrement la question, mais sans toujours oser la regarder dans une histoire et sans regarder les personnes. Et pour Haïti, c'est la même chose. Nous sommes présents en Haïti depuis 1981. Nous avons la chance d'avoir dans notre volontariat permanent des volontaires haïtiens. Et ce qui nous impressionne ces jours-ci, c'est le courage de ces personnes, ces familles qui sont les quartiers les plus très défavorisés, très peu accessibles et qui pendant plusieurs jours sont restés sans secours et qui malgré tout se soutiennent les uns les autres, essaient de permettre aux plus jeunes enfants de pas trop souffrir de cette situation, prennent des initiatives et c'est ça qui nous enthousiasme et qui fait que plusieurs d'entre nous vont partir en Haïti pour soutenir cet effort des quartiers très défavorisés et des localités également, puisque nous sommes également présents à Fond-des-Nègres, dans une autre partie de l'île.
Jean-Pierre
Tocan. Oui, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que c'est intéressant de voir comment les sociétés construisent la catégorie de pauvres, comment ils la pensent, comment ils la décrivent à des moments donnés de manière très différente. Ce qui est intéressant, en Suisse, si on regarde les choses, je vous rappelle que dans les années 1990, à Neuchâtel, il y a une enquête qui a été faite par un sociologue de l'université de Neuchâtel, François Hénard, qui s'appelait « Avons-nous des pauvres ?» Point d'interrogation. C'est un mandat des politiques neuchâtelois qui voulaient savoir s'il y avait des pauvres à Neuchâtel. Et il avait répondu quelque chose comme « oui », et il les avait dénombrés d'une manière... ensuite, il y a toute une série d'autres études. Et la Suisse, par exemple, a passé dans les années 90 à une période de redécouverte, de découverte. Nous avons des pauvres en Suisse. Ce n'est pas par hasard que ça vient à ce moment-là. Ça a des effets politiques, notamment sur la création de toute une série de politiques d'assistance qui ont suivi les années 90, dirigées envers cette population. Ça n'a évidemment cette manière de faire les choses et les problématiques. Elle est à problématiser parce que, d'une part, elle focalise, comme l'a dit Jean Batou, sur une population comme étant une population à problème, sans dire qu'il y a un problème de structure sociale qui crée les inégalités sociales. Hein. Le succès de la notion d'exclusion est un bon exemple de cela. Hein. Ce sont des exclus. Personne n'est responsable de l'exclusion. On disait 20 ans plus tôt, on disait ce sont des exploités.
C'est vrai. Hein.
On disait pas la même chose. Et donc, on dit quelque chose de la société, on dit quelque chose des problèmes de la société, et on construit la pauvreté, évidemment, chaque fois dans ses dénombrements, d'une manière différente et d'une manière tout à fait discutable.
Alors, les estimations de la pauvreté dépendent évidemment des définitions qui sont utilisées, on le comprend bien. Donc, premier enjeu, comment définit-on, comment mesure-t-on la pauvreté? Par exemple, les Nations Unies, il y a un indicateur de développement humain, il y a deux indicateurs de pauvreté. Bon, tout ça reste un peu flou vu de l'extérieur. Donc, Eric Creta, il faut se fier aux indicateurs actuels mis au point par les experts pour à la fois définir et puis mesurer cette pauvreté, l'ampleur de la pauvreté aujourd'hui.
Bon, ce qu'on peut dire en préambule, c'est qu'il faut en tout cas distinguer la mesure de la pauvreté dans les pays dits en voie de développement, qui n'est évidemment pas de la même nature que la pauvreté qu'on va trouver en Europe ou en Amérique du Nord, par exemple.
Donc déjà là, on mesure différemment.
On mesure des phénomènes d'une autre nature, donc on doit utiliser des indicateurs différents. Pour ce qui concerne les pays plus avancés économiquement, plus développés, on utilise souvent des indicateurs monétaires, pas toujours, mais le plus souvent des indicateurs monétaires. Une des raisons étant que les politiques sociales sont plutôt d'une nature monétaire ou quasi-monétaire, donc c'est souvent plus utile pour les politiques sociales. C'est le fruit d'une tradition de recherche de plus d'un siècle quand même. Il faut le dire que déjà au 19e siècle, il y avait des chercheurs qui ont essayé de définir des seuils de pauvreté. Je pense par exemple à Seebohm-Rowntree en Angleterre. Mm-hmm. Une étude d'ailleurs tout à fait passionnante parce qu'il l'a refaite dans les années 30 et ensuite dans les années 50. Donc ça donne une perspective de plus de 60 ans sur l'évolution de la pauvreté en Angleterre. C'est tout à fait fascinant. Donc les premiers seuils qui ont été utilisés dans les pays occidentaux, c'était des seuils vraiment de un strict minimum nécessaire pour survivre. Là, j'ai sous les yeux un tableau qu'avait fait Rowntree où il regardait quelle quantité de pain, de margarine, de coco et de lard, les gens achetaient pour survivre une journée, puis ensuite de ça, il dérive un seuil de pauvreté qui, en argent d'aujourd'hui, représentait 53 livres sterling. Voilà. Donc alors, c'est vraiment une pauvreté très extrême.
Mais on a beaucoup avancé par rapport, même si c'est plus le coco ou la margarine, mais je veux dire, on a beaucoup avancé par rapport à cette façon-là de calculer qui semble assez simple.
Oui, alors ce type de seuil s'utilise encore, même s'il est devenu un peu plus complexe parce que les niveaux de vie ont quand même progressé. Mais on peut par exemple dériver un seuil de pauvreté des normes d'aide sociale, par exemple, c'est ce que fait l'Office fédéral de la statistique, par exemple, en opérationnalisant les normes d'aide sociale qui disent quel est le minimum qu'on doit avoir en Suisse pour mener une vie décente.
Mais ce qui est intéressant, c'est comment cette norme a été créée par l'aide sociale. Et les normes d'aide sociale, c'est un compromis politique.
Exact.
Ça a été basé au tout départ sur une espèce de panier de la ménagère. On n'est pas très loin de Rowntree.
Voilà.
Qui n'a jamais été actualisé et qui devient un consensus politique. D'ailleurs, ces normes d'aide sociale ont baissé ces dernières années. Donc, on voit un consensus qui change. Si on baisse le niveau de l'aide sociale, qu'est-ce que ça fait ? On aura plus de pauvres. Hein, ça, statistiquement, il n'y a pas de... Ça provoque une réaction. C'est des vases communicants. Ça veut dire que ces seuils de pauvreté monétaire, quand ils sont calculés comme ça, en fait, mesurent quelque chose qui est de l'ordre de la réaction de la société à une situation de pauvreté. Qu'est-ce qui est tolérable ? Qu'est-ce qui n'est pas tolérable dans une société donnée du point de vue du niveau des choses ? C'est pour ça que quand on compare dans le temps des statistiques qui ne sont pas comptabilisées la même chose, qui ne sont pas faites la même chose, où la catégorie de pauvres n'est pas pensée de la même manière, évidemment, on compare des choses incomparables.
Jean Batou.
Oui, si on prend du recul historique par rapport à la pauvreté, on constate que les premiers discours sur la pauvreté, condamnant la pauvreté, critiquant la pauvreté, sont ceux des premières religions monothéistes. Mm-hmm. C'est-à-dire on trouve dans le judaïsme, dans le christianisme et dans l'islam une critique de la pauvreté, une critique des riches et responsables de la pauvreté.
Ouais. Pardon, j'aimerais juste vous arrêter, oui, parce que justement, Jacques Le Goff, qui est donc un grand médiéviste et qui va d'ailleurs publier la source sur ce thème, montre bien qu'au Moyen-Âge, non seulement la pauvreté est omniprésente, mais qu'elle n'est pas encore un objet de scandale, d'autant plus qu'on est dans une culture chrétienne qui, à l'époque, voit dans la richesse une forme d'obstacle au paradis. En tout cas, c'est ce qu'il dit, Jean Batou.
Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec lui là-dessus. C'est-à-dire, on commence avec, disons, quelques siècles avant notre ère, une découverte de la pauvreté comme un scandale. Une dénonciation de la pauvreté et une réflexion sur ses causes. Et aussi, on légitime la révolte contre la pauvreté. C'est un des discours des religions monothéistes. Au préalable, la pauvreté était acceptée. Mais qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est le développement du commerce, la possibilité de s'enrichir et la possibilité pour des gens de s'enrichissent au détriment des autres. Le commerce répartit différemment, produit pas de richesse, mais répartit différemment la richesse. Alors vous avez le Moyen-Âge qui est sous l'influence de ce discours sur la pauvreté, où le pauvre est une victime, doit être protégé.
Vous dites le pauvre, c'est celui qui est nu.
C'est celui qui est proche de Dieu.
Et ce n'est pas par rapport à l'argent, puisque l'argent, au fond, est beaucoup moins présent.
Mais tout de même, au Moyen-Âge, il est présent. Et la grande rupture, c'est le XVIe siècle, c'est-à-dire le déracinement massif des petits paysans, des petits producteurs, et donc une misère qui se répand sur les routes, qui assaille les villes, et qui est condamnée comme une plaie sociale. C'est la plaie des gueux. Et on commence, au XVIe siècle, à punir la pauvreté, parce que la pauvreté est un vice. Et je trouve que c'est très intéressant.
C'est un vice parce que le pauvre, c'est celui qui ne travaille pas.
C'est celui qui ne travaille pas, c'est celui qui... Bon, or, comme aujourd'hui, mm-hmm. beaucoup de gens au XVIe siècle, il y a des grosses différences, mais il y a une analogie, ont leurs bras, leurs jambes, ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas de travail. Mm-hmm. Donc ils assaillent les villes, ils mendient, et on les punit avec une extraordinaire violence. Et c'est punir les pauvres. D'ailleurs, le thème a été repris par un sociologue, Loïc Vacan, qui parle aujourd'hui de l'enfermement des pauvres, du nouvel enfermement des pauvres, hein, parce que les pauvres, c'est aussi des prisonniers en grand nombre, qui sont victimes de cette nouvelle rage de punir les pauvres parce que ce sont des classes dangereuses.
Éric Créta, vous vouliez intervenir.
Je voulais encore rajouter que, effectivement, si les religions avaient produit un discours sur la pauvreté, il faut aussi voir que les élites de l'époque savaient qu'il y avait de la pauvreté, mais s'en préoccupaient bien peu. Le sociologue allemand Norbert Elias, par exemple, dit, voilà, pour eux, c'était dans l'ordre des choses, c'était la volonté divine que les hommes naissent différents, mm-hmm. et ça leur était d'ailleurs parfaitement égal qu'il y ait beaucoup de gueux et de pauvres et de mendiants. Et puis, je rejoins tout à fait ce que dit Jean Batou, il y a un sociologue français qui a étudié ces questions-là, Robert Castel, mm-hmm. où il montre que vraiment... La question du vagabondage était perçue un peu comme vraiment un problème social grave, mais qu'il fallait punir, pas résoudre, mais punir.
Donc cette question de la dangerosité, elle est toujours en toile de fond. Oui, hein. Jean-Pierre Tabin.
Non seulement la dangerosité, mais la construction on va dire en Suisse en tout cas très clairement, la construction des entités communales et cantonales. On s'aperçoit, le problème de l'assistance, ça devient un problème en Suisse, c'est des vagabondages, ça devient un problème et une question de scandalisation avec la réforme. Parce qu'on a des pauvres qui sont renvoyés, qui partent d'un canton à l'autre, qui cherchent simplement de quoi se nourrir, de quoi vivre, etc. Et puis tout d'un coup, on se dit, ceux-là, ils viennent d'un canton protestant, renvoyons-les au canton protestant qui, par ailleurs, a fermé, a pris les biens de l'Église, a fait toute une série de choses qui fait qu'il n'y a plus pour eux possibilité de mendier dans les cantons protestants. Donc, ils viennent dans les cantons catholiques, qui les renvoient. Et on voit la diète suisse des quelques cantons qui forment
la Confédération. Donc,
un parlement,
on va dire, la diète.
Oui, un parlement avec très, très peu de pouvoir, disons.
C'est, archaïque.
C'est pas notre vision du parlement. La diète qui prend des mesures pour dire à qui les pauvres appartiennent-ils. Et autour de cette appartenance, on a quelque chose qui est extrêmement important en Suisse, qui est le fait que nous avons en Suisse, tous les Suisses ont une commune d'origine. Commune d'origine qui a une spécificité helvétique, puisque nous avons sur notre passeport quelque chose qui nous relie à nos ancêtres. Une commune où des fois on n'a jamais vécu, qu'on n'a jamais connu, où on n'est pas né, hein, qui est une manière de fixer l'origine très différente de celle qu'on rencontre en France, en Allemagne, en Italie, etc. Et c'est directement lié à la question de la pauvreté et de l'assistance. L'origine, c'est le droit d'être aidé, mais aussi l'obligation d'aider pour la commune dont on vient, dans une logique héréditaire de droit du sang, hein, où on appartient à la commune d'origine. En Suisse, cette logique de l'assistance par la commune d'origine, par exemple, il faut attendre le milieu des années 1970, pour qu'elle soit supprimée. Jusque-là, il était possible pour un canton de renvoyer les pauvres dans un autre canton pour s'y faire aider. Dans leur canton d'origine. Ouais. Donc c'est très très important. Ouais. Il y a quelque chose autour de la citoyenneté et de l'assistance, un lien très très fort entre ces deux éléments-là.
Jean-Pierre Tabin, on reviendra bien sûr dans le dernier chapitre, on va dire, de notre débat sur les politiques d'aide, voir comment on évalue si elles sont efficaces ou non, si elles ont un réel impact. Mais juste d'un mot pour rester sur ce chapitre de la définition et des enjeux. Xavier Verza, le mouvement que vous représentez est donc aux prises avec ce que vous appelez la grande pauvreté. Alors, où passe la ligne qui est forcément fragile, qui est forcément, enfin on le suppose, instable entre pauvreté et grande pauvreté? Est-ce que c'est une notion qui fait sens pour le sociologue, pour l'économiste? Xavier Verza d'abord.
Je crois que, comme on vient de le dire autour de la table, il y a eu à travers les siècles des attitudes ambivalentes vis-à-vis de ces populations sans travail, errant d'un canton à l'autre ou d'un lieu à l'autre. Et ambivalentes dans le sens qu'à la fois il y a eu cette condamnation, voire cette répression, mais aussi une prise de conscience progressive que tout homme est un homme, comme dit le proverbe de Centrafrique. Et on le voit à travers l'histoire, comme par exemple à Caen en 1655, il y a un édit qui fait que les jeunes de plus de 10 ans de famille très démunie, enfin c'est pas le mot utilisé à l'époque, doivent être mis d'office auprès d'un maître d'apprentissage.
Ouais.
Donc il y a une sorte de droit à la formation professionnelle. On ne sait pas quelles conséquences concrètes ça a eu, mais il y avait eu cette volonté, cette affirmation. Et aujourd'hui, on en est toujours là. C'est-à-dire qu'il y a... surtout quand on regarde les gens dans les situations les plus précaires, qu'est-ce le regard qu'il y a, et on persiste cette distinction bon-pauvre, mauvais-pauvre que plusieurs historiens ont relaté tout au long du Moyen-Âge. Alors c'est ça qui nous a amené, avec d'autres, hein, et notamment avec le Conseil économique social français en 1987, à élaborer une définition qui produit non pas une différence radicale, mais en tout cas une gradation entre la précarité, le fait que dans certains domaines de la vie, on peut vivre des insécurités, on ne sait pas lire et écrire, ou bien on n'a pas de travail, ou à un moment donné, on est sans logement. Et puis cette situation où quand ces précarités se cumulent et dans la durée, on en vient à une situation où, de fait, les personnes ne peuvent plus exercer les droits.
Dans la durée, c'est-à-dire transgénérationnelle, de génération en génération.
Il n'y a plus d'ascenseur social. Ce qu'on peut appeler aussi pauvreté chronique à ce moment-là. Mais bon, ça, ce n'est pas propre à la situation de grande pauvreté. Les frontières et le fait qu'une génération se retrouve souvent dans un statut social proche de la précédente. Mais ce qui a évolué aussi, c'est qu'on l'a lié, le Conseil économique social français et les Nations unies au sein de la Commission des droits de l'homme, l'ont relié à une question d'exercice des droits. C'est-à-dire que progressivement a émergé l'idée, mais que cette notion de droit et de droit de toute personne est devenue plus présente dans nos sociétés, et en est du coup découlée une question, mais ces personnes sont-elles titulaires de droits, y compris le droit de s'exprimer, le droit de participer, le droit de donner leur avis. Et on est quand même beaucoup dans ces questions-là, y compris au niveau de la recherche, et je trouve qu'un des développements intéressants de ces dernières années, c'est le fait qu'y compris dans le livre de M. Tapin, on donne la parole à des personnes qui sont dans ces dispositifs d'assistance. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous le vivez? Et éventuellement aussi, quelles idées vous auriez pour l'améliorer? Et c'est sûr que notre mouvement est profondément engagé là-dedans, dans cette question de citoyenneté partagée.
Voilà. Jean Batou.
Oui, je crois que tout ce qui est dit autour de cette table montre que la pauvreté est une notion profondément relative. C'est-à-dire, la pauvreté doit être mesurée par rapport aux revenus disponibles moyens d'une société.
Voilà. Et là, on voit qu'il y a des approches très différentes selon les pays. Hein. On place le curseur par rapport à ce fameux seuil de pauvreté de façon parfois différente.
Ce qui me frappe, moi, c'est que le ressenti de la pauvreté est lié surtout à l'inégalité. Et ça se manifeste même, il y a un auteur qui s'appelle Wilkinson qui a fait des études sur la maladie, disons du point de vue épidémiologique, et les inégalités sociales, et qui a montré que ce n'est pas le niveau absolu de revenus qui détermine la morbidité de populations données, mais c'est les écarts de revenus par rapport à l'ensemble de la société. Le fait d'être pauvre dans une société riche, c'est très différent que d'être pauvre dans une société pauvre. Ouais. Et ça se manifeste sur votre santé.
C'est-à-dire qu'on est pauvre, mais on est nombreux. Je me souviens, c'était un des slogans d'un syndicat indien qui regroupait des gens dans le secteur informel. Et c'est-à-dire, on est pauvre, mais on est nombreux.
Oui, mais même, ils sont nombreux, mais en Inde, il y a des très riches.
C'est
une société inégalitaire, c'est pas une société égalitaire.
Ouais, très inégalitaire. Jean Tabin, sur cette histoire de curseur où on met le seuil de pauvreté, et bien sûr, ce qui fait qu'on l'évalue de manière très différente. Bon, je crois que vous voulez intervenir.
Ouais,
hein,
la pauvreté, c'est un rapport de domination. Et tout ce qu'on décrit sur le terme de pauvreté, en fait, on décrit un rapport de domination des catégories de personnes qui sont dans une situation dominée. Alors tout le problème, quand on fait une mesure à un moment donné du nombre de personnes qui ont un revenu de moins de temps, avec toutes les pondérations statistiques,
c'est combien en Suisse, Eric Créta, juste un chiffre?
D'après les statistiques officielles, environ 9%, 9-10%.
Quand on fait ce curseur-là, d'abord on fait une photo des gens à un moment donné. Donc, on regarde des gens qui peuvent avoir un très bas revenu à un moment donné pour mille raisons. Par exemple, parce qu'ils sont aux études. Si on est en études, ce n'est pas tout à fait la même chose d'être dans un niveau de revenu bas, parce qu'on sait que ça ne va pas durer, a priori, pendant longtemps. C'est une période d'études, que si on y est depuis 30 ans et puis qu'on y reste. Donc, il y a un côté non dynamique dans cette manière de mesurer, qui est un premier problème qui est posé par la mesure, le dénombrement, on va dire, du nombre de pauvres. La deuxième manière, le deuxième problème, c'est qu'on parle souvent de découverte de la pauvreté. Hein. On regarde les choses et puis on dit, voilà, on découvre la situation de pauvreté. On ne la découvre jamais, on la construit toujours. C'est-à-dire qu'on la considère toujours d'une certaine manière. Je vous prends un exemple pour illustrer mon propos, c'est la question du chômage. La statistique du chômage, elle commence à se faire à la fin du 19e siècle, autour d'une catégorie de pauvres tout à fait particulière, celle dont on considère que ce sont des pauvres qui, A, sont valides, qui, B, veulent travailler, et qui, C, ne trouvent pas de travail. Ces trois choses doivent être réunies pour faire un chômeur. Cette catégorie, on ne va pas découvrir le chômage à la fin du 19e et au début du 20e siècle, on va inventer la notion de chômage, on va inventer la catégorie, on va inventer tout un dispositif aussi de réponse à cette problématique qu'on a construite. Ce dispositif, c'est la création d'assurance chômage qui, d'une part, indemnise le chômeur pour qu'il reste disponible quand il y aura de nouveau de l'emploi et qu'il n'aille pas chercher de l'emploi ailleurs, pour qu'il ne vagabonde pas, mais aussi pour qu'il reste en fait cette armée de réserve de travailleurs disponibles pour l'industrie quand elle en a besoin. C'est l'Angleterre qui développe l'assurance chômage. Et deuxièmement, on crée des bureaux de placement pour vérifier que le pauvre chômeur est bien disponible à trouver du travail et qu'il ne va pas le refuser. S'il le refuse, il perd à la fois l'indemnité et il perd la catégorie. C'est plus un chômeur.
Je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit par les deux intervenants précédents. Et une des choses qu'on fait dans les recherches sur la pauvreté, c'est justement d'essayer de multiplier les indicateurs et aussi d'avoir des approches dynamiques, comme vous le disiez, selon qu'on se trouve dans cette situation une année ou pendant toute son enfance, par exemple, ça va avoir un impact très différent. Ce qui permet au moins d'obtenir quelques... disons, on pourrait dire la métaphore qu'on prend des photos sous plusieurs angles pour essayer d'avoir une vue un peu plus complète du panorama, mais ça reste toujours un travail de construction d'une catégorie, absolument.
On parle de plus en plus, Eric Créta, des working poor, c'est-à-dire des travailleurs pauvres qui travaillent mais qui ne s'en sortent pas du tout. C'est une notion... on en a plutôt la perception commune est que ces travailleurs pauvres progressent, sont de plus en plus nombreux. Les classes moyennes aujourd'hui se sentent menacées par ce phénomène de working poor, qui est inquiétant en termes de contrat social, Eric Créta. Alors, est-ce que réellement c'est un phénomène qui augmente, c'est-à-dire de plus en plus de gens qui travaillent et qui vivent en dessous de ce fameux seuil de pauvreté, en tout cas tel qu'il est défini pour la Suisse?
Alors très rapidement, déjà je trouve intéressant qu'on parle de working poor, ce qui prouve qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on pensait que c'était un phénomène nord-américain. Hein, puis plus récemment, on a découvert qu'en Europe aussi, on avait des travailleurs pauvres. Je crois qu'une des
grandes... C'est juste parce qu'on était en retard dans la découverte, hein, ou la redécouverte.
J'insiste.
Oui, sur la construction.
Juste une toute petite chose là-dessus, je ne veux pas vous interrompre pour vous. Mais juste une petite chose. Quand on dit working poor ou travailleur pauvre, ça veut dire qu'on a une certaine vision de ce à quoi sert le salaire. Le salaire, ça doit servir à entretenir non seulement, c'est pas seulement le prix d'un travail, ça doit servir à entretenir une famille. Hein, c'est l'idée autour du salaire, c'est d'ailleurs une revendication des syndicats, une vieille revendication des syndicats que le salaire serve à cela. Mais ceci dans un modèle parfaitement inégalitaire du point de vue des rapports sociaux entre hommes et femmes, où l'homme et l'homme gagne pas. Donc la catégorie dont M. Créta va parler fait partie de toute une construction autour de à quoi sert le salaire ? Qu'est-ce que doit permettre le salaire ?
Bon, je voudrais quand même souligner qu'il ne faut pas confondre la problématique des travailleurs pauvres et celle des travailleurs à bas salaire, précisément parce que dans beaucoup de cas, il s'agit de couples dans lesquels les deux partenaires travaillent. Mais c'est juste que la question de savoir si un emploi à plein temps doit protéger contre la pauvreté, qui se retrouve par exemple dans la statistique officielle, c'est très clair. Il faut avoir un emploi à plein temps au niveau du ménage pour entrer dans cette catégorie. Elle reflète cette image... En anglais, on dit du male breadwinner, c'est-à-dire de l'homme qui allait gagner le pain de la famille et son épouse qui reste à la maison. Pour répondre à votre question initiale sur le fait de savoir si c'est en évolution ou pas, je crois une des grandes craintes qu'on retrouve dans la recherche sur ce sujet, c'est surtout pour les travailleurs peu qualifiés qui, pendant les 30 glorieuses, parvenaient, bon an mal an, à trouver des emplois relativement bien rémunérés dans l'industrie.
Et c'est plus le cas.
Et dans les sociétés post-industrielles, où les emplois peu qualifiés ont été beaucoup décentralisés dans des pays comme la Chine et l'Inde. Alors, ce n'est pas le seul mécanisme, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a un sociologue comme Espig Andersen qui dit, par exemple, que la formation, c'est devenu un peu le facteur hégémonique des espérances qu'on peut avoir dans sa vie. Donc, le fait d'être peu qualifié aujourd'hui est devenu vraiment un handicap social très lourd. Et ça se retrouve très, très clairement sur le marché du travail.
Mais en progression ou pas? Vous ne m'avez pas répondu, je crois.
Alors, il y a beaucoup d'affirmations qui ont été faites là-dessus. Souvent, ce qui manque, c'est des bases de données permettant de faire des analyses à plus long terme.
Donc, c'est pas bien documenté.
On peut penser quand même que c'est plutôt en évolution dans le mauvais sens.
Donc, on pense que, donc ça veut dire que c'est pas réellement encore bien documenté. Jean Batou.
Je crois qu'on peut dire statistiquement, à l'échelle internationale, que les 20% les plus pauvres d'une population, disons, moyenne en Europe, aux États-Unis, au Japon, dans les pays développés. Pour le reste, c'est évident que ces 20% ont connu un recul de leurs revenus disponibles dans ces 20 dernières années. Il y a des exceptions discutables, comme l'Angleterre, mais globalement, il y a un recul. Et à mon avis, ce recul est lié au tournant des années 80, à l'entrée dans un capitalisme néolibéral qui a poussé de plus en plus à supprimer ou à réduire les seuils minimaux qui avaient été fixés de revenus, de salaires, également à réduire les prestations sociales, à réduire les services publics gratuits. Et donc, on est dans une société où ce n'est pas un automatisme économique, mais c'est aussi des choix qui ont été faits ou qui ont été imposés qui suscitent aujourd'hui un développement des inégalités et donc de la pauvreté. Et c'est la raison pour laquelle je pense que si on reste dans une optique de répartition des revenus par le marché, eh bien on va assister à une croissance des inégalités, une croissance de la pauvreté. Et donc, les réponses sont en termes de fixer des minimaux. On discute beaucoup du salaire minimum aujourd'hui, du revenu minimum, mais aussi de défendre la gratuité pour toute une série de biens et services, disons, nécessaires à la vie. Personne ici ne revendique l'école obligatoire payante. Donc, c'est dans nos mœurs qu'il faut que l'instruction soit gratuite. Eh bien, il y a d'autres.
Oui. Et en même temps, même notre instruction gratuite ne permet pas encore à tous les enfants d'apprendre. On a en Suisse, d'après l'enquête PISA, puis dans les pays de l'OCDE, 9 à 15% de jeunes à 15 ans qui ne savent pas comprendre, qui ne peuvent pas utiliser un texte simple en rapport avec la vie quotidienne. D'où l'importance, effectivement, de cette question d'indicateurs saisissant cette réalité sous différents angles. Parce qu'il y a la question des revenus, mais il y a la question de l'accès au savoir et à la formation professionnelle, la question du logement. On a très peu de statistiques en Suisse sur les situations de surpeuplement qui pèsent vraiment sur les possibilités de vivre et même d'apprendre et même qui ont des répercussions sur la vie des gens qui sont énormes ou de la question de la santé. Mais ça change si justement on entame un chemin où on va chercher à définir ces critères avec les personnes concernées elles-mêmes, parce qu'elles sont quand même les mieux placées pour nous dire, mais qu'est-ce qui est révélateur de la situation que je vis, qu'est-ce qu'il faudrait changer, où se situe le problème qui fait que ça empêche d'assumer ses responsabilités et d'exercer ses droits.
Éric Créta, peut-être sur ce lien donc mondialisation-précarisation.
Moi, je voulais juste revenir sur la question de savoir si c'était plutôt, le phénomène était plutôt en hausse en baisse. Je pense que pour la pauvreté en général et l'inégalité, ça fait relativement peu de doute, y compris pour l'OCDE, qu'on peut difficilement penser être une institution marxiste. Bien au contraire, qui elle-même admet que tendanciellement la pauvreté, et l'inégalité a été plutôt en hausse depuis les années 80, due à la désindustrialisation en grande partie, les économies développées.
Alors, on l'a juste évoqué au passage, la question homme-femme. Or, une des données peut-être nouvelles, c'est cette dimension très féminine aujourd'hui de la pauvreté. Jean-Pierre Tabin.
De nouveau,
hocher de la tête. Alors,
tout dépend comment on considère les choses, parce que c'est vrai que nous sommes dans une situation d'inégalité homme-femme tout à fait forte en Suisse aujourd'hui, qui est pas nouvelle, mais qui continue d'exister, notamment inégalité des revenus, inégalité des temps de travail, inégalité des rôles sociaux, inégalité, hiérarchie, tout ça qui existe. Et évidemment, la pauvreté des femmes est plus forte que la pauvreté des hommes, puisque les salaires féminins sont inférieurs, puisque
les progressions dans
le métier sont beaucoup plus difficiles. Pour rejoindre Jean Batou, parce que les services publics sont tout à fait insuffisants pour permettre l'externalisation des tâches domestiques et ménagères, notamment la garde des enfants, qui est tout à fait insuffisante dans un pays comme la Suisse. Et donc, nous avons une situation qui est clairement liée à un rapport de domination entre hommes et femmes. Et de nouveau, il ne faut pas se tromper sur le regard que l'on porte par rapport à cette problématique de la pauvreté plus grande des femmes par rapport à celle des hommes dans la statistique. Quelles sont les causes que l'on donne à cela? Par exemple, quand on dit aujourd'hui les familles monoparentales. D'abord, quand on dit les familles monoparentales, on utilise un euphémisme.
C'est
95%
des
femmes avec des enfants. Donc, quand on dit famille monoparentale,
c'est comme les paysans africains, voilà, des statistiques onusiennes qui sont souvent des paysannes.
Voilà. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on occulte complètement la dimension rapports sociaux de sexe quand on dit famille monoparentale. Deuxième chose, quand on dit famille monoparentale, on dit le problème, finalement, c'est le divorce. Si ces gens-là étaient restés ensemble,
ils ne seraient pas pauvres.
Ils ne seraient pas pauvres parce qu'ils seraient compensés. Donc, et ça donne des initiatives. Aux États-Unis, George W. Bush a mis en place, il y a déjà quelques années, l'initiative Healthy Families, qui est là pour aider les familles à ne pas se séparer. Vous avez des bonus à l'assistance si vous restez ensemble.
Des bonus au non-divorce, quoi.
Au non-divorce, hein, un encouragement et des politiques. Mais à Genève, vous avez des propositions de cet ordre-là. Hein, donc, pour dire, alors, attention, tout de suite une représentation des causes de la pauvreté.
Alors, puisque vous en parlez, on va zoomer sur cet angle-là, c'est-à-dire politique de lutte contre la pauvreté et la précarité. Mais avant, on va prendre un tout petit peu de force et de respirer, force musicale bien sûr, avant de parler lutte contre la pauvreté.
La pauvreté touche une personne sur 10 en Suisse. Caritas lance un cri d'alarme. Les politiques empoignent aussi le sujet dans le canton de Vaud. Par exemple, on examine un système de prestations complémentaires pour aider des familles comme celles qu'on va entendre.
Chaque franc compte. Caritas veut réduire de moitié la pauvreté en Suisse d'ici 2020.
Pour atteindre cet objectif, l'œuvre d'entraide a présenté hier à Berne un nouveau catalogue de mesures. Caritas demande entre autres une loi cadre au niveau fédéral pour régler le minimum social, selon Michel Berger-Wildaber, vice-président de Caritas Suisse.
Nathalie, elle, est employée d'administration. Avec son conjoint, ils ont 5 enfants à charge et une fois les factures payées, il ne leur reste pratiquement rien.
À chaque sondage, c'est la peur du déclassement, les Français le disent, 60% d'entre eux ont peur de devenir des sans-domicile fixe. Est-ce que c'est une angoisse véritable ou un sentiment de pauvreté? On va essayer de répondre à cette question. Il y a en tout cas des indicateurs, et on va en parler ce soir, très concrets. Le chômage qui augmente, évidemment, le nombre d'inscrits dans les associations caritatives, le petit presto du cœur. On va bien sûr en parler avec vous, puis à ce paradoxe.
Salaud de pauvre.
la voix de Jean Gabin, bien sûr. Vous êtes dans Babylone pour la suite de cette table ronde consacrée au défi ultime, sans doute, que représente la pauvreté dans le monde et en Suisse aussi. Alors, pour ce dernier chapitre, on va se concentrer sur les réponses un peu qui sont apportées à la question. Et j'aimerais vous citer Esther Duflo, qui est une jeune économiste, qui est aussi, au passage, la plus jeune professeure du Collège de France. D'après elle, on a du mal à évaluer les résultats des programmes de lutte. Elle dit, au fond, on passe un peu de mode en mode, alors qu'il faudrait plutôt, et c'est ce qu'elle fait dans son laboratoire d'expérimentation, il faudrait plutôt faire des programmes pilotes, tester, un petit peu comme sur le mode de la recherche peut-être pharmaceutique, avant de lancer des grands projets dont on évalue mal l'impact. Éric Créta.
Bon, il faut dire que ça se fait déjà en partie. Les Nord-Américains sont les spécialistes des grandes expérimentations sociales. Donc ça, c'est plutôt un avis de chercheuse française, à mon avis. Mm-hmm. Parce qu'il y a des pays où ça se fait déjà. Moi, dans mon domaine d'expertise, qui est celui des luttes contre la pauvreté laborieuse, je sais qu'il y a des programmes qui ont été faits aux États-Unis avant d'introduire des nouveaux crédits d'impôt, ou plus précisément de les développer dans les années 90.
C'est une bonne idée, ça marche. Ça permet d'évaluer un impact.
Bon, à mon avis, ça pose des problèmes éthiques. C'est-à-dire, voilà, on utilise des gens comme des rats de laboratoire. Moi, ça me gêne, honnêtement. En même temps, si ça permet d'avoir des bons résultats qui permettent d'améliorer les politiques sociales,
mais ça me déplaît un peu éthiquement. Jean Batou et Jean-Pierre Tabin.
Bon, Esther Duflo, c'est comme vous l'avez dit, bon, c'est une star de l'économie. Elle vient d'ailleurs de l'histoire. Moi, j'ai beaucoup de réserves sur cette idée que la pauvreté est une maladie, on l'a dit dès le départ ici, et qu'il faudrait appliquer, comme dans la recherche pharmaceutique, elle parle même de tests à double aveugle, on va faire des expériences.
Elle prend vraiment le modèle de la recherche pharmaceutique.
Bon, on a là des malades, ils sont pauvres, ou c'est une société qui est malade, il y a des pauvres. On va appliquer des programmes et on va voir
trouver
ce que
bon
ça donne.
Trouver le bon médicament.
Écoutez, très franchement, on sait quand même un certain nombre de choses. On sait, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, on sait que la mise en cause de l'État-providence est une des causes principales de la montée de la pauvreté. Bon, l'État-providence était une expérience grandeur nature qui a concerné beaucoup de pays et qui a donné un certain nombre de résultats. On nous explique que c'est plus possible. On démantèle ces régulations et d'autre part, on met en cause les services publics qui sont une forme de redistribution par la gratuité ou la subvention de biens et services fondamentaux. Donc, je dirais, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Il y a ici des réponses qui ont été testées et on pourrait s'en inspirer. Alors, on ne va pas refaire la même chose que les années 60, mais il faut quand même se souvenir qu'on est sorti d'une période...
On ne va pas faire la même chose des années 60, c'est-à-dire
On ne va pas refaire les années 60 aujourd'hui. On est dans une autre période. La mondialisation de l'économie pose des problèmes différents d'échelle, mais il y a des réponses qui ont été testées dont on peut s'inspirer. Et je crois qu'aujourd'hui, disons, pour ce qui est de la Suisse, des normes élémentaires comme le salaire minimum qui a permis en Angleterre d'enrayer un peu, parce qu'il a été introduit récemment, d'enrayer un peu la montée de la pauvreté, serait une mesure immédiate de bon sens. Donc on a des réponses, et j'insistais tout à l'heure sur la gratuité pour un certain nombre de biens et services qui sont des réponses élémentaires au problème de la pauvreté.
Jean-Pierre Tabin, vous vouliez...
Pour illustrer effectivement la manière dont Mme Duflo propose de faire des recherches, de tester de manière aléatoire des programmes sur des populations, oublie toute la dimension structurelle et politique qui produit les situations que l'on nomme ensuite pauvreté. Prenons un exemple très simple. On est en train aujourd'hui en Suisse de réviser l'assurance chômage. Cette révision est un démantèlement du droit au chômage pour toute une série de catégories, notamment les jeunes, et qui va faire sortir du droit à l'assurance chômage toute une série de personnes et donc les mettre dans une situation où ils seront plus soutenus par l'assurance chômage et où seront à charge d'autres dispositifs, éventuellement de leurs parents, éventuellement ailleurs. Enfin, on ne sait pas ce que ça va donner, mais ça va avoir des effets sociaux. Et ce que proposent les programmes de la Poverty Action Lab et les programmes de Madame Duflo ou les études nord-américaines, parce que comme vous dites, il n'y a rien de vraiment nouveau là-dedans, c'est de mesurer si les jeunes chômeurs s'intègrent mieux ou moins bien dans le monde du travail avec tel ou tel programme qui leur est proposé, sans se poser jamais la question des effets des politiques sur cette possibilité d'intégration ou non. Donc, pour moi, ça n'a juste aucun sens.
Très bien, on vous a bien entendu. Xavier Verza.
Oui, ce que je trouve intéressant, c'est que la lutte contre la pauvreté entre au Collège de France. D'une certaine manière, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on se dise, mais là, il y a une question de démocratie, de citoyenneté, alors on dit aussi de cohésion sociale, mais tout simplement aussi qui renvoie à la dignité humaine. Alors la question maintenant, c'est de savoir quels sont les besoins de connaissances qu'on a, et c'est vrai si je prends par exemple le cas de la Suisse, c'est quand même frappant de voir qu'on sait très peu dire de choses sur le placement des enfants en Suisse, et le lien entre le fait que des enfants soient mis dans des familles d'accueil ou des institutions, et les conditions de précarité, et le devenir de ces enfants. Or, les familles que nous connaissons, d'ailleurs pas uniquement en Suisse, pour elles, ça reste une réalité de leur vécu familial, d'aujourd'hui, d'une inquiétude pour demain. Est-ce que nous allons pouvoir vivre avec nos enfants ? Si j'ai un problème de logement grave, est-ce que je vais oser en parler ? Ou est-ce qu'on va me dire, mais écoutez, madame, monsieur, vous ne pouvez pas rester dans des conditions pareilles, et donc on va être amené temporairement, on dit au début, à mettre votre enfant en famille d'accueil. Donc voilà, il y a des besoins de connaissances, et je pense qu'on va aller plus loin en termes des réponses, par rapport à l'illettrisme aussi, si on prend les personnes concernées comme des acteurs de connaissance aussi. Et c'est, à mon avis, ce qui est nouveau dans ces dernières décennies, c'est l'émergence de cette nécessité d'une co-recherche, de vraiment élaborer des savoirs communs, chacun à sa place, le savoir académique pouvant s'appuyer, se croiser avec le savoir des personnes concernées et le savoir des personnes d'action.
Alors, très bien, mais on en est, semble-t-il, encore très très loin. Oui, Jean Batou.
Juste dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, je crois aussi que l'organisation des gens eux-mêmes, pas seulement comme source de connaissances, mais comme source d'action, c'est-à-dire les usagers de la prévoyance sociale, les chômeurs, doivent être incités, je sais que c'est difficile, à s'organiser pour faire valoir aussi collectivement leurs
droits. Pour le moment, il y a une grande invisibilité.
Voilà, pour sortir de l'invisibilité, puis pour sortir de cet anonymat. Je suis tout à fait d'accord qu'on manque de connaissances, mais cette connaissance, si elle était produite collectivement par l'organisation de ces personnes, ça serait aussi un facteur politique de transformation.
Éric Créta, sur la co-recherche.
Oui, d'ailleurs, il y a des chercheurs qui proposent de faire des évaluations des politiques sociales incluant les bénéficiaires, contrairement à ce qui se fait d'habitude dans les évaluations, les méta-évaluations, où vous avez un chercheur qui, depuis son bureau, analyse les effets de la politique. Il y a vraiment des chercheurs comme Monnier en France, par exemple, qui recommandent vraiment d'inclure les bénéficiaires et d'avoir aussi une partie de l'évaluation qui est plus de type vraiment ethnographique, où on va au contact des gens, on les côtoie, et on essaie vraiment de comprendre de l'intérieur ce qui se passe. Donc oui, je pense que c'est vraiment une bonne idée.
Alors, on peut dire un mot peut-être par rapport à cette fameuse déclaration contre la pauvreté qui a été lancée l'an dernier, Caritas, et puis avec d'autres organisations, associations. Donc l'idée, l'objectif, quoi, c'est réduire de moitié le nombre des pauvres en Suisse d'ici 2020, avec remise en cause d'une politique sociale cantonale qui crée aussi, de par ce fait, beaucoup d'inégalités. Vous pensez que ce débat-là, il va réellement pouvoir être porté, quoi ? Éric Créta.
Alors, je ne sais pas, il me semble que ce n'est pas les premiers à fixer des objectifs quantitatifs de vouloir diviser la pauvreté en 2020.
Ouais. Justement.
Je ne suis pas très enthousiasmé. Maintenant, si ça permet d'activer le débat sur les politiques sociales,
d'accord, vous n'y croyez pas. Jean Batou.
Non, moi je salue quand même l'appel de Caritas. Caritas a quand même le mérite de poser ce problème publiquement, de crier fort. Et évidemment, ça ne donnera rien, pas plus que les objectifs du millénaire à l'échelle internationale, s'il n'y a pas des réponses politiques fortes et des mobilisations sociales. Mais je pense que Caritas fait ce que devraient faire beaucoup d'autres forces politiques et sociales en Suisse, mettre la question de la pauvreté et des inégalités au centre du débat.
Je voulais juste dire, je ne critiquais pas du tout Caritas. Je pense que c'est une ONG qui a des objectifs parfaitement louables et qui fait un travail très très efficace avec des gens très démunis qui ne s'en sortiraient pas sans leur aide. Alors ça, c'est très clair.
Jean-Pierre Tabin. Mais on peut regretter, pour moi, politiquement, disons, que ces appels-là ne soient pas justement plus politiques, davantage politiques. Et je prendrai un seul exemple. Une des causes de la pauvreté aujourd'hui, c'est le fait que des gens souffrent d'accidents du travail. Il y a des gens qui souffrent d'accidents du travail, c'est connu, et ils se retrouvent dans des situations, après des années, de pauvreté liées à leur accident. Comment le fait même de nommer ça « accident du travail » et non pas, par exemple, « tentative de meurtre au travail » puisque c'est les conditions de production qui produisent les accidents du travail. Non, certains le font. Je n'invente pas cette terminologie, elle est utilisée par les anglo-saxons. C'est les conditions de production qui créent les choses.
Peut-être qu'on va le dire en anglais, ça
peut-être de se poser la question.
Les working poor.
Réduire la pauvreté, oui, et mettre fin à la misère. Et les membres de notre mouvement, ils nous disent, mais ça, on ne va pas attendre 2020. Et mettre fin à la misère, destruction de la vie humaine, il faut se donner les moyens très très rapidement de mettre fin aux situations les plus inacceptables en partant des plus démunis. Parce que le gros défi, c'est comment on agit sans écrémer, c'est-à-dire sans faire avec ceux avec qui c'est plus facile, mais en prenant comme point de repère ceux avec qui on n'y arrive pas parce qu'on les a laissés tellement éloignés de nos modes de vie, de nos outils que voilà.
Très bien, ça sera le mot de la fin. De toute façon, le débat va se poursuivre dans Babylone. Merci à vous quatre d'avoir en tout cas croisé vos regards, de nous avoir donné vos analyses sur la pauvreté dans le monde et en Suisse. Et puis je rappelle aux auditeurs qu'ils retrouveront bien entendu toutes vos références corrigé sur nos pages internet à l'adresse babylone.rsr.ch. Voilà, Babylone vous était proposé par Nicole Corpato, Bruno Seriba à la réalisation, et Babylone est une production de David Collin et Nicole Duparc. Je remercie quand même nommément mes invités. Il y avait Jean-Pierre Tabin, professeur à l'École d'études sociales et pédagogiques et à l'Université de Lausanne. Éric Créta, sociologue, Université de Neuchâtel. Jean Batou, historien, Université de Lausanne. Et puis Xavier Verza, volontaire permanent du mouvement ATD Carmont de Suisse. Voilà. Demain, dans Babylone, un grand reportage qui vous sera proposé par Jean-Marc Falcombello. Nous partirons pour le village haut-valaisan de Torbel, un village étudié par Elinor Ostrom, qui est, eh bien, c'est le prix Nobel d'économie 09, récompensé pour ses travaux sur la gestion des biens communs. Voilà, on poursuit notre réflexion autour de l'économie et de la gestion, de comment faire ensemble. Bien sûr, réécouter cette émission. Vous pouvez podcaster nos émissions. Vous pouvez nous écrire, bien sûr, en allant sur babylone.rsr.ch. Dans une poignée de secondes, 10h, les infos. Elles seront suivies de votre rendez-vous avec Joseph Kessel à l'enseigne de l'humeur vagabonde. Espace de 10 heures.